Bonjour et bienvenue sur Rotrou en air. Dans le cadre de notre club radio au lycée Rotrou de Dreux, Maëva nous parlera du Cinéclic avec la participation de Monsieur Méranger, professeur de la spécialité cinéma au lycée Rotrou, et de Clara, élève de terminale. Ensuite, nous retrouvons Dimitri avec la chronique D, aujourd'hui sur l'automobile. Et pour finir, Lana nous présentera l'association sportive du lycée, avec l'intervention de Chloé, une élève inscrite, et de Monsieur Gay, professeur d'EPS au lycée et animateur de cette association. Comme prévu, nous commençons ce magazine avec Maëva. Bonjour Maëva.
Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Ce 28 septembre, nous avons participé à la projection de Cinéma Paradiso dans le cadre du Cinéclic. Et nous voulions en savoir plus sur ce qu'est le Cinéclic en interviewant M. Méranger, qui est notre professeur de la spécialité cinéma, ainsi que le président de l'association Fenêtre sur Film, qui propose les séances de Cinéclic. Bonjour, qu'est-ce que le Cinéclic ?
Alors le Cinéclic, c'est une programmation de 10 films, ça peut être un petit peu plus, le plus souvent à Ciné-Centre, et c'est des mardis soirs. C'est une dizaine de séances dans l'année, avec pour ceux qui ont raté cette séance-là, une rediffusion qui peut avoir lieu dans la semaine et le dimanche. Et en fait, il s'agit de films qui sont de tous les genres, de tous les pays et de toutes les époques, mais qui ont un intérêt particulier pour ceux et celles qui s'intéressent au cinéma. En particulier, évidemment, les élèves qui font partie des activités de l'option cinéma ou de la spécialité cinéma au lycée Rotrou. Mais pas seulement. Alors, au départ, ça intéressait peut-être seulement leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Et puis maintenant, il y a des gens de toute la ville de Dreux, même de toute l'agglomération du pays de Dreux, qui viennent voir ces séances comme des séances de cinéma normales. En revanche, ce qui est un petit peu différent de la normale, c'est que ce sont des séances accompagnées, comme on dit. Donc accompagné, ça veut dire que c'est pas seulement un film qu'on va voir et puis on part au milieu du générique final et puis c'est fini. Ce sont des films autour desquels on peut parler, qui donnent des sujets de réflexion, si on veut, et à propos desquels on invite des gens. Donc l'avantage de Cinéclic, c'est que il y a en général, quand on peut, quelqu'un qui a participé à la fabrication du film, ça peut être le réalisateur, la réalisatrice, un acteur, un producteur, ou quelqu'un qui a écrit sur le film, ou quelqu'un qui a des choses à dire sur une des thématiques du film, ou quelqu'un de l'association Fenêtre sur Film, qui est une association de Dreux, de gens qui s'intéressent au cinéma, qui ensuite, après la projection du film, parle du film avec le public. Le public qui a le droit, bien sûr, c'est fait pour ça, d'intervenir et de discuter autour du film.
Depuis quand cela existe ?
Eh bien, ça existe depuis quasiment 20 ans maintenant. Puisque au départ, il s'agissait de fidéliser un petit peu, de donner l'habitude du cinéma aux élèves de l'option cinéma du lycée Rotrou qui venait d'être créé. Donc pour ça, nous avons créé deux choses. D'abord le Cinéclic dont on parle, mais aussi le festival Regard d'ailleurs. Le festival Regard d'ailleurs, c'est une fois par an, pratiquement sur un mois, au printemps, pour simplifier. Mais on s'est dit tout de suite, on ne va pas ne faire des séances qu'une fois par an au printemps. Les gens qui aiment le cinéma, ils ont envie d'aller au cinéma beaucoup plus souvent. D'où cette idée d'une dizaine de séances à Ciné-Centre, et même, quand on le peut, quelques-unes gratuites, pour le coup, au lycée Rotrou, dans l'auditorium. Et ça, ça a donné Cinéclic.
Et comment choisissez-vous les films à programmer ?
C'est compliqué. D'abord, c'est une sorte de chimie pour que les films soient différents et aillent bien ensemble. Vraiment, le mot essentiel, c'est l'éclectisme. Il faut que les films soient différents, qu'on n'ait pas à chaque fois un film du même pays, de la même date, etc. Donc on va faire alterner des films tout récents, même quelquefois des avant-premières, des films qui ne sont pas encore montrés dans toute la France, avec des films plus anciens, c'est-à-dire des films qu'on appelle du patrimoine, quelquefois des films même en noir et blanc, etc. Des films de tous les pays du monde, y compris bien sûr des films français. Et puis, l'idée, c'est que ça dépend aussi un petit peu des circonstances. Quand on a la possibilité, évidemment, d'inviter une réalisatrice ou un réalisateur, ben, on va faire venir un de ses films, évidemment. Quand il y a des thèmes qui parcourent l'actualité, ben, c'est le cas en ce moment, par exemple, avec l'environnement, on va choisir des films, pas forcément qui sont des documentaires sur l'environnement, mais qui vont utiliser la thématique de l'écologie en l'occurrence, pour développer une intrigue. Quand on parle de la condition des femmes, on va montrer des films qui sont réalisés par des femmes ou dont des femmes sont les héroïnes ou qui ont quelque chose à nous dire sur le sujet. Donc tout ça, ça fait une alternance, un peu comme une mosaïque de choses qui sont là ensemble, non pas parce qu'elles se ressemblent, même s'il peut y avoir des liens, mais parce qu'elles contrastent les unes avec les autres et que ça permet de faire un parcours.
Nous avons demandé à une élève de la spécialité de nous faire une critique du film Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore.
Alors Clara, peux-tu nous résumer le film Cinema Paradiso ?
Alors Cinema Paradiso, c'est un film dans lequel il y a un petit garçon qui tombe amoureux du cinéma, il adore ça et il passe tout son temps en salle de projection. Comme c'est dans les années 40, c'est du cinéma sur pellicule. Et c'est quelque chose qui le fascine vraiment beaucoup. Il rêve de devenir projectionniste, sauf que sa mère, elle veut qu'il se concentre sur l'école, comme pour tous les enfants de son âge. Donc il n'a plus le droit d'y accéder, mais il aime tellement le cinéma qu'il va réussir à convaincre Alfredo, le machiniste, de l'accepter en loge avec lui. Un jour, il y a un accident qui va survenir et il va prendre le relais de Alfredo jusqu'à arriver à l'âge adulte où il va faire son service militaire et partir faire sa vie dans l'Italie principale. Et il va devenir un grand réalisateur très connu.
As-tu aimé le film ?
J'ai adoré le film et je pense que je l'ai aimé parce que c'est un petit peu un film qui nous tend un miroir, étant donné que je suis en classe de cinéma, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours apprécié le cinéma, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée et intriguée. Comme beaucoup d'élèves qui sont dans la spécialité avec moi. Je pense qu'il était très émouvant à de nombreuses reprises et que c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'un feel-good movie parce que ça donne le sourire, ça donne de l'espoir dans l'avenir, ça montre quelque chose qui est très agréable aussi, c'est le cinéma à la pellicule qui est quand même un excellent souvenir, même si je ne l'ai pas connu, c'est quelque chose qu'on idolâtre un petit peu de nos jours, donc c'est toujours très agréable de voir ça illustré dans un film. Et un film qui parle du cinéma, c'est pas aussi courant que ça, on n'en voit pas tellement, donc ça fait du bien de voir un film dans lequel on se sent représenté et un film qui nous parle vraiment.
Merci aux deux intervenants de nous avoir laissé du temps pour les interviewer.
Et quel film sera diffusé à la prochaine séance ?
Le 23 novembre prochain, dans le cadre du Cinéclic, nous regarderons Peau de vache de Patricia Mazui.
Eh bien, je sais ce que je ferai ce soir-ci. Merci Maëva pour ces informations. Je remercie également Monsieur Méranger ainsi que Clara pour leur participation. Passons à présent à l'automobile. Bonjour Dimitri.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le climat se réchauffe, les glaces polaires fondent. Des espèces sont menacées, les eaux ne font que monter, mettant à mal de nombreuses populations. C'est un fait, la Terre a de plus en plus chaud.
Ça se ressent d'ailleurs.
Les scientifiques nous ont alarmés à plusieurs reprises. De nombreux mouvements défendant la planète comme Extinction Rébellion et de nombreux militants individuels comme Greta Thunberg commencent à faire entendre leur voix. Le coupable ? Le dioxyde de carbone, aussi connu sous le nom de gaz carbonique ou CO2. Il est connu comme un gaz à effet de serre qui est capable de réchauffer la planète. Face à ça, les gouvernements doivent réagir. Mais parfois, leurs décisions ont de quoi diviser la population. Parmi ces mesures, certaines d'entre elles impactent de plein fouet l'automobile, principalement visée par les pouvoirs publics, et surtout lorsque l'affaire du Dieselgate, une fraude au contrôle des émissions polluantes des moteurs diesel, surtout du côté de Volkswagen, a éclaté. On va donc voir plus en détail ces mesures. Parlons tout d'abord de politique. La norme Euro 7 prévoit de réduire les émissions de CO2 à 47,5 grammes par kilomètre. Cela a pour but de contraindre les constructeurs automobiles à adopter la motorisation électrique dans leur gamme. Tesla semble bien parti car sa gamme n'est composée que de véhicules 100% électriques. Vous connaissez sans doute les Vigneur Critères, ce dispositif permettant de classer les véhicules selon leur année de fabrication et leur niveau d'émission. Au-delà de critère 3, ces véhicules seront bientôt interdits à la vente. Les ZFE pour zones à faible émission contraindront davantage les constructeurs à prendre le virage de l'électrique. Une autre loi stipule que d'ici 2030, tous les véhicules émettant plus de 123 grammes par kilomètre de CO2 seront interdits à la vente. Cela concerne les gros SUV de la catégorie premium, les voitures de luxe et de prestige, mais surtout les voitures sportives, les supercars avec des moteurs passant les 500 chevaux et qui sont des bêtes de circuit. Pire encore, d'ici 2035, plus aucune voiture propulsée par de l'essence ou du gazole ne sera autorisée à la vente, selon un projet de loi de la Commission européenne. On peut se demander si cela n'aurait pas directement un impact sur les sports mécaniques, auquel cas de nombreux amateurs de sport automobile feront entendre leur voix. Intéressons-nous maintenant à l'impact environnemental de la Formule 1. Franchement, qui ne connaît pas ce sport auto, bien évidemment. En 2019, le comité de direction de la Formule 1 a révélé l'impact environnemental de ce sport. 256 000 tonnes de CO2. Cela peut paraître énorme, mais chose surprenante, les monoplaces ne sont responsables que de 0,7% de ces émissions. C'est contre-intuitif. La majeure partie de ces émissions vient surtout de la logistique, avec le transport du matériel, des monoplaces, mais aussi les spectateurs qui utilisent leur voiture individuelle pour s'y rendre. Tout cela représente 45% des émissions. De plus, concernant les 24 heures du Mans, qui accusent quand même 16 000 tonnes de CO2, 60% de ces émissions sont dues à l'arrivée des spectateurs qui utilisent non seulement leur voiture, mais aussi un jet privé pour certains. Même un sport non mécanique peut faire de gros dégâts à la planète. Prenez la Coupe du Monde de foot de 2010, qui a eu lieu en Afrique du Sud, et qui est responsable de plus de 2,7 millions de tonnes de CO2. Le Rallye de France, qui a lieu la même année, a rejeté 2700 tonnes de CO2, et le Dakar, 42 800 tonnes. Tout ça dépend donc du nombre de personnes qui se déplacent vers cet événement. Les véhicules de compétition n'y contribuent que pour une part ridicule. Mais sport automobile pourrait rimer avec écologie. La FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, a déclaré que les compétitions de Formule 1 vont se tourner vers le zéro carbone d'ici 2030. L'arrivée de la Formule E, ou Formule électrique, dans les années 2010 a commencé à faire parler d'elle, mais elle ne pourra peut-être pas remplacer la F1 en raison des adeptes amoureux du moteur thermique. À ses débuts, en 2014, la FE était moquée par tous les fans de sport automobile. Les raisons, son bruit d'aspirateur, sa puissance, sa vitesse de pointe et son autonomie qui sont ridicules. On la croyait damnée, morte dans l'œuf. Mais les temps changent et la technologie évolue. Comme pour la F1, la FE est elle aussi devenue un laboratoire technologique assoiffé de performance et d'efficacité. Même si la F1 a un avenir remis en question, la FE a continué de briller et de gagner en importance. Mais le gros point noir de toute voiture électrique qui se respecte sont les mêmes. La fabrication des batteries énergivores et polluantes, surtout pour l'extraction et le transport des matières premières, ou la logistique pour résumer, et le mix énergétique dominé par les centrales fonctionnant aux énergies fossiles, même si l'électricité française carbure au nucléaire. Auquel cas, on n'a toujours pas de moyens pour les stocker durablement. Le virage du zéro carbone est aussi envisagé par les 24 heures du Mans, mais aussi au Dakar. Avec son prototype RSQ e-tron, Audi affirme que l'électrique a aussi sa place dans ce sport automobile. Ces évolutions technologiques ont de quoi redonner un second souffle au sport automobile. Mieux encore, un prototype de turboréacteur fonctionnant sans kérosène utilisant de l'air ambiant et des micro-ondes a été développé à l'université de Wuhan, en Chine. Si cette technologie venait à être adaptée pour l'automobile, on peut donc en déduire que le moteur à piston n'aura pas dit son dernier mot, ravivant la flamme des passionnés de mécanique nostalgique des moteurs grondants et qui martèlent le sol. Pour conclure, malgré les contraintes politico-écologiques imposées à l'automobile, mais aussi au sport mécanique, ceci continue de s'adapter pour essayer d'attirer de plus en plus de monde.
Merci Dimitri pour ce sujet très intéressant, d'autant plus avec la COP26 qui s'est tenue à Glasgow en Écosse récemment. Revenons au lycée avec un peu de sport. Bonjour Lana, tu as choisi de nous parler de l'association sportive du lycée Rotrou.
Oui, bonjour Caroline et bonjour à tous. Et donc pour cela, nous avons interviewé Monsieur Gay, professeur de sport du lycée Rotrou et qui s'occupe aussi de l'AS. Qu'est-ce que l'AS ?
L'AS, c'est donc une association sportive qui est ouverte dans tous les établissements du second degré, en collège et en lycée, qui est destinée à la pratique sportive des élèves. Et c'est une pratique sportive facultative, c'est-à-dire que les élèves qui viennent à l'AS s'inscrivent de façon volontaire et viennent chaque semaine s'ils veulent ou quand ils le désirent. En fait, normalement, on leur demande de prévenir. Voilà, c'est ouvert à tous les lycéens ici au lycée Rotrou, notamment enfin, ceux qui n'ont pas cours, parce que petit à petit, en lycée, il y a de plus en plus de cours le mercredi après-midi. Mais ça a été fait, ça a été créé en fait, pour développer la pratique sportive des élèves et que ça soit accessible à tout le monde pour des sommes modiques. que là, vous voyez, on paye 20 euros à l'année pour faire une activité sportive ou deux tous les mercredis après-midi, donc pendant 30 à 35 semaines.
Quel sport, donc, vous proposez au sein de l'AS ?
Donc, on a des sports qui sont proposés quasiment toutes les semaines et après, des sports qui sont proposés en fonction des compétitions. Toutes les semaines, on a de la musculation, donc comme on dispose d'une belle salle de musculation, du circuit training, qui est une déclinaison un peu de la musculation avec des exercices plus au poids de corps et puis des haltères, mais il n'y a pas de machine. On propose du volleyball également et en général du football, mais également en fonction des périodes de compétition, du rugby, de l'athlétisme, parfois du run and bike, du cross, du basket, du handball. Qu'est-ce qu'on propose encore d'autre comme activité ? Du tennis également. Donc on propose vraiment une grande diversité d'activités et en fonction de la période de compétition, sauf que depuis un an et demi, on a assez peu de compétitions. Donc on fait des challenges à l'intérieur de l'AS, mais peu d'activités à l'extérieur pour l'instant.
Vous avez des ambitions pour cette année au niveau des concours, etc. ?
Pour cette année, comme on n'est pas encore sûr qu'il y ait des compétitions, on s'est quand même projeté un petit peu. On a une option handball qui fonctionne très bien. Quand ça s'est arrêté au mois de mars 2020, on était qualifié au championnat interacadémique en handball. Donc tous les ans, on espère aller avec un bon groupe de gars et de filles, aller au moins au championnat académique, voire au championnat de France au hand. Après, selon les années, au tennis, on a déjà fait plusieurs fois des championnats de France. Au football également, en circuit training, les élèves y sont allés 3 années de suite. Donc on a des activités où on peut aller ou championnat académique ou championnat de France. Et toutes nos équipes quasiment participent aux championnats départementaux, voire aux championnats académiques, dans quasiment toutes les activités qu'on propose.
Pour finir, c'est quoi en général les motivations des élèves en venant à l'AS ?
Donc on a vraiment deux grands types de motivation. Les élèves qui viennent pour le plaisir, qui viennent pratiquer avec leurs camarades ou qui viennent s'épanouir dans une activité, mais avec aucun objectif de compétition. Il y a aussi des activités qui n'amènent pas trop à la compétition, notamment la musculation. Pour le badminton aussi, on a souvent des élèves qui viennent pratiquer pour le plaisir, en volleyball également. Et puis on a d'autres élèves qui sont vraiment motivés uniquement par la compétition. Alors depuis un an et demi, comme je disais, eux, ils sont un peu privés. Mais par contre, eux viennent vraiment pour avoir des résultats et puis former des équipes qui vont être performantes. C'est notamment le cas de nos élèves de l'option, là, de seconde, première et terminale. Ça représente un groupe d'une centaine d'élèves qui nous permettent tous les ans d'être premier lycée dans le classement départemental.
Aussi, nous avons demandé à Chloé, une élève de terminale du lycée, pourquoi elle a choisi de faire l'AS.
L'AS, ça a toujours été une habitude pour moi, donc c'est toujours le mercredi après-midi. Et au collège, il faut savoir que je la faisais déjà. Donc j'ai toujours été habituée à exercer les différents sports proposés à l'AS. Puis c'est un plus au niveau des activités extrascolaires sportives, et vu que j'adore le sport, c'est un vrai plus, quoi.
Donc merci à Chloé et à Monsieur Gay. Maintenant, nous espérons que leurs ambitions pour l'année vont s'accomplir et on leur donne tout notre soutien pour leur prochaine compétition.
De belles ambitions pour l'année. Merci Lana, remercions aussi Monsieur Gay et Chloé. Chers auditeurs, Retro en air est à présent fini. Nous vous souhaitons une belle journée et au mois prochain pour le magazine entièrement consacré au VIH.